Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu de la tech, de l'internet et des gadgets. Et aujourd'hui, c'est un épisode où on ne va pas faire ça du tout puisque nous sommes en pleine fête de Noël et du Nouvel An. Normalement, si tout va bien, vous entendez ça en 2019. Normalement, je publierai a priori le 1er janvier 2019. Donc, bonne année à tous. J'espère que 2018 a été magnifique et que 2019 le sera encore plus pour vous tous. Imaginez-moi en train de d'enlever la neige à la pelle. Non, encore que je serai à Paris, donc à moi qui neige à Paris. C'est compliqué ces voyages dans le temps, mais vous savez quoi, on va avoir un épisode, j'espère, assez intéressant, puisqu'on va essayer de vous parler de données privées, de comment protéger ces données privées, et surtout des questions, j'ai envie de dire, morales et éthiques qu'impliquent tous ces problèmes, qu'on traite à longueur de temps de manière un petit peu technique, mais qu'il est parfois bon de s'arrêter et de considérer d'un autre point de vue. Et pour m'aider à faire ça, j'ai l'excellent Guillaume Champeau qui est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Guillaume? Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs?
Salut, écoute, merci d'abord pour ton accueil. Je me joins à tes vœux que tu formules à tes auditeurs. Je leur souhaite aussi une excellente année. Pour me présenter, j'ai fondé un média il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Numérama, numérama.com, que j'ai quitté il y a 3 ans pour rejoindre Quant, moteur de recherche. Et j'en suis aujourd'hui directeur de l'éthique et des affaires juridiques.
Alors, ça ne va pas être une interview, hein. Le but n'est pas de faire interview de Guillaume Champeau, c'est vraiment de parler des questions de données privées. Mais j'ai une question qui me taraude depuis un bon moment. Tu avais une position intéressante dans la société que tu avais fondée. Quand tu es allé chez Quant, c'était vraiment par motivation presque philosophique? Tu t'es dit « je veux me battre pour ces idées » ou c'était un petit peu de ça? Bien sûr, j'imagine que c'est forcément présent. Et puis, envie de changer, de faire autre chose?
C'est les deux, en fait. C'est pour vraiment parler de moi une minute, j'avais fait des études de droit, je m'étais arrêté en maîtrise au moment où j'ai fondé Numérama il y a une quinzaine d'années. Et pour devenir un peu journaliste de fait, quoi, mais c'était pas du tout ma vocation à l'origine. Je me destinais à être avocat et à faire de la propriété intellectuelle mon métier au quotidien. Et puis en fait, le site que j'avais fondé a tellement bien marché qu'à un moment on se posait la question: est-ce que je continue mes études et j'arrête le site, ou est-ce que je continue le site et j'arrête mes études? Et donc j'ai pris la deuxième option. Et puis j'ai écrit des articles, et puis pas mal d'articles tous les jours pendant une dizaine d'années. Et au bout d'un moment, c'était juste un peu la fatigue d'écrire toujours la même chose. Et je me sentais de plus en plus acide et acerbe dans mes commentaires, notamment contre les GAFA, à un moment où j'en pouvais plus de voir la tournure que ça prenait et le fait que globalement les gens semblaient ne pas avoir conscience, s'en foutre de ce que j'écrivais. Et en tout cas de pas réussir à convaincre, quoi, sur le sujet notamment de la protection des données. Et à un moment j'ai repris mes études de droit en parallèle de Numérama, où je me suis spécialisé dans la question de la protection des droits fondamentaux sur Internet. J'en ai fait mon mémoire, et notamment de la responsabilité des entreprises pour protéger les droits de l'homme sur Internet. Et c'est un hasard de rencontre où un jour, Web Today, qui est un festival que tu connais peut-être, qui est organisé à Nantes, là où j'habite, je vois Eric Léandri, qui est le président de Quant, qui fait une conférence. Et en fait, tout ce qu'il dit, c'est exactement ce dont je rêve depuis des années, quoi. C'est-à-dire une boîte qui a une conscience de son... Du rôle éthique qu'elle doit avoir, de son rôle de protection, notamment de la vie privée sur Internet, et du fait que c'est pas parce qu'on fait du business qu'on peut tout se permettre, et qu'il y a encore possibilité de faire des choses contre les GAFA, que la guerre n'est pas perdue, et voilà. Et donc là, je me dis, mais c'est exactement
c'est
ce que je rêve de faire.
C'est mon âme sœur. Voilà. Ou en tout cas, il chante donc, une mélodie qui me plaît, quoi.
Voilà, et donc en ayant un peu marre du journalisme d'un côté et l'envie de faire autre chose, et puis lui qui avait finalement aussi des besoins, et ben on s'est retrouvés, et puis ça a marché, quoi.
Super. Et donc, pour le rappeler à ceux qui ne le savent pas, Quant, c'est un moteur de recherche qui base ses résultats non pas sur les données qu'il accumule sur vous, mais sur les recherches que vous faites et les données peut-être qu'ils ont par ailleurs sur les sujets qu'ils traitent. Enfin, décris-le parce que tu le feras mieux que moi.
c'est vraiment un moteur de recherche au sens strict, c'est-à-dire qu'on fait un travail d'indexation de tous les contenus, enfin en tout cas le plus de contenus possible qui sont sur le web. Donc là, on va aller utiliser ce qu'on appelle des crawlers, qui sont des logiciels qui vont aller simuler l'activité d'un internaute pour copier un peu dans nos bases de données tous les contenus qui sont disponibles actuellement sur Internet. Et puis à côté, il y a les algorithmes de tri qui permettent de faire remonter l'information qui est la plus pertinente parmi toutes les informations qu'on a indexées. Et pour ça, nous, on estime qu'on n'a pas besoin de savoir si la personne qui cherche une information sur le net est un homme, une femme, si elle a 15 ans ou 45 ans, si elle est musulmane ou catholique, etc. On n'a pas besoin de données privées, de données personnelles sur l'internaute pour lui fournir la réponse qui correspond à sa requête. Donc, on fait un moteur de recherche qui fournit les résultats qui sont attendus, mais derrière, on ne profile pas l'utilisateur, on n'a pas l'historique de recherche, on ne va pas aller communiquer de données à des annonceurs ou à des partenaires quelconques, on ne va pas nous les exploiter pour aller modifier nos résultats de recherche en fonction des caractéristiques de l'utilisateur. Voilà. C'est vraiment un outil qui respecte la vie privée et qui, du coup, est aussi neutre dans les résultats qu'il fournit.
On pourrait penser, c'était pas le but de commencer par débattre sur les Quant et ton boulot, mais je me suis dit, on fait une discussion ouverte, donc on va aller là où la discussion nous emmène. Je voudrais juste mentionner le fait que, bon, d'une part, Quant est un moteur de recherche français, donc si on veut soutenir l'activité des géants, entre guillemets, du numérique français et européen, là, c'est un moyen de le faire. Mais je pense que certains vont se dire, j'estime moi avec raison, tu me diras peut-être le contraire, que un moteur de recherche qui va moins me connaître va sans doute renvoyer des résultats moins pertinents. C'est une possibilité. Je pense que chacun pourrait se faire son idée en utilisant Quant. Mais ce qui est sûr, enfin, il y a deux éléments à prendre en compte. Moins pertinent ne veut pas dire pas pertinent. Et puis moins, ça peut être un tout petit peu moins, parce que c'est peut-être affiné avec la masse de données qu'on collecte sur nous, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver quand même la réponse à une question qu'on pose. Et puis d'autre part, ça, donc ce niveau de pertinence, on pourra chacun en juger. Mais l'autre chose qui est importante, c'est qu'il y a quelques années, on se souciait peut-être moins des questions de vie privée et de données privées. Mais aujourd'hui, depuis les différents scandales qui ont éclaté, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui seraient prêtes justement à sacrifier peut-être un tout petit peu de pertinence pour avoir l'esprit tranquille et se dire « je sauvegarde l'ensemble ou autant que possible ». Enfin, on va en parler comment faire pour sauvegarder autant que possible, mais dans le cas de Google contre Quant, Quant vous épargne le fait de livrer la moindre donnée qui vous concerne. Donc, un petit peu de pertinence contre l'ensemble de sa vie privée, même si c'est un petit peu moins pertinent, ce qui, encore une fois, reste à prouver, ce deal, en fait, convient, je pense, à bon nombre d'internautes aujourd'hui.
Ouais, alors, pour reprendre dans l'ordre de tes questions, par rapport à la pertinence qu'on peut avoir par rapport à Google, hein, qui reste la référence pour la très grande majorité des internautes, Google lui-même, d'après les chiffres que j'ai vus là, il y a quelques jours ou quelques semaines, il dit qu'en gros, on a 4% des recherches sur Google sur lesquelles les résultats sont personnalisés. C'est-à-dire que quand tu fais une recherche, tu vas avoir à peu près 95-96% de tes requêtes où tu auras les mêmes résultats que les autres. Et donc, eux, la part sur laquelle il va déterminer que toi, le résultat qui va t'intéresser sera plutôt celui-là ou celui-là, il est en fait très faible.
Ce que tu veux dire, c'est que même si Google n'avait pas nos données personnelles, il pourrait nous fournir 96% des résultats qu'on
exactement.
A de toute façon. Ouais.
Exact, ce qui a été d'ailleurs le cas de Google jusque dans les années 2000, je crois que c'est en 2006 ou 2007 qu'ils ont commencé a annoncé qu'ils allaient personnaliser les résultats de recherche. Et tu vois, 10 ans plus tard, ce n'est le cas que d'après leurs propres chiffres sur 4% des requêtes. Donc ça veut dire que quand tu utilises Quant, en gros, tu as la même pertinence que sur 95% des requêtes que tu fais avec Google. Pour autant que le fait de personnaliser soit vraiment pertinent, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'il va te personnaliser les résultats qu'il va le personnaliser de façon absolument pertinente. Parfois, c'est même le contraire. C'est-à-dire que toi, tu vas aller chercher, je sais pas, Golf Morbihan, et en fait, il se trouve que tu es passionné de voitures. Donc, pour lui, il va te mettre les résultats qui concernent les gens qui vendent des voitures de la marque Golf dans le Morbihan, alors qu'en fait, tu veux faire du golf dans le Morbihan. Tu vois, c'est pas la même chose. Ouais. Mais nous, le fait qu'on ne personnalise pas les résultats en fonction d'un historique, peut-être que sur une petite fraction des recherches, on aura des résultats qui sont moins ceux que tu attends, mais par contre, ça te force aussi et peut-être à préciser tes recherches qu'on a fait pendant des années sans que ça pose le moindre problème. Et puis surtout, on travaille sur des technos. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails parce qu'on n'a pas encore vraiment communiqué dessus, mais des choses qui vont permettre de personnaliser tes résultats de recherche sans que nous, on ait des données qui te concernent de notre côté. C'est-à-dire que le tri va se faire côté, ce qu'on appelle côté client. Donc c'est dans ton navigateur, si toi tu le décides, tu vas pouvoir appliquer un filtre, un classement un peu différencié. Mais les données qui sont utilisées pour préciser les résultats de recherche, elles resteront en local sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et c'est pas Quant qui va déterminer que Patrick Béja habite en Finlande et que donc quand il recherche tel truc, voilà. On ouvre là un nouveau champ de développement technologique qui est en privacy, ce qu'on appelle en privacy by design, qui oblige à réfléchir les choses différemment pour apporter le même niveau de service que ce qu'on a l'habitude quand on utilise les services de ceux qui captent toutes les données, mais à le faire de façon à ce que les données ne soient pas chez nous. Quant le fait, mais il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent de cette manière-là.
C'est vrai, c'est les préoccupations qu'on a depuis un certain temps. Et alors, je suis désolé, je m'excuse auprès des auditeurs, l'idée n'était pas de se lancer sur Quant directement. Moi, je voulais en parler, mais peut-être en parler en fin d'épisode. Mais c'est vrai que c'est là que la conversation nous a pris. Mais oui, donc il y a toutes ces préoccupations qui sont aujourd'hui des préoccupations importantes pour une bonne part de la population et qui peuvent peut-être faire émerger des manières de faire les choses qui sont plus éthiques et l'éthique est une préoccupation importante pour toi et ton moteur de recherche. Et j'ajoute
c'est vrai,
que...
Juste, pardon, je te coupe. Mais j'ai oublié de répondre à la deuxième partie de ta question sur le fait que tu as des internautes de plus en plus qui vont aller rechercher des services éthiques et qu'il y a une prise de conscience qui est assez croissante. Et ça, c'est vrai. Alors, il y a deux choses qui nous ont aidés. La première, c'est en général sur Internet, c'est l'affaire Snowden. C'est-à-dire que quand, en 2013, tu as Edward Snowden qui révèle que les services de renseignement américains ont quelque part un accès ouvert à toutes les données qui sont hébergées sur les grands services qu'on utilise au quotidien. Là, les gens se disent « Ok, il y a peut-être un problème à mettre toutes nos données sur un serveur où on ne sait pas trop qui peut venir piocher et faire quoi sur les données. » Et puis, ça a permis de faire naître un débat où, pour la première fois, on sortait de l'accusation de paranoïa qui était généralement dite à ceux qui, comme moi, mettaient en garde sur ce genre de risque. Là, à partir de l'affaire Snowden, on sait qu'on n'est pas dans la paranoïa, on est dans la réalité, quoi. Donc ça change déjà le regard sur le discours qu'on peut avoir. Et puis, plus récemment, il y a eu l'affaire Cambridge Analytica avec Facebook, où, quand on mettait en garde sur le fait de dire, quand vous mettez des données personnelles sur Facebook qui permet de créer une sorte de profil psychologique de qui vous êtes, quels sont vos centres d'intérêt, quelles sont les choses qui vous font partager des contenus, quelles sont les choses qui vous font réagir, etc. En fait, vous donnez des clés qui permettent de vous manipuler. Et ça, c'était pareil. C'était quand on disait ça, on était dans la paranoïa. Depuis l'affaire Cambridge Analytica, on est dans la réalité. On voit bien, et c'est une préoccupation croissante sur les fake news, sur les manipulations par tel ou tel État, qu'on est dans que les gens commencent à comprendre le lien qu'il peut y avoir entre collecte des données personnelles et manipulation. Et donc, si on ne veut pas être manipulé, il faut essayer de ne pas donner ses données personnelles à des gens et à des entreprises. Et donc, les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça. Et j'aime bien faire le parallèle avec la question de la protection de l'environnement et du développement durable, en se disant que finalement, dans les années 80, tu avais quelques illuminés qui parlaient de développement durable, qui parlaient d'agriculture biologique, etc., mais qui étaient pris pour un peu des hippies, des gens qui feraient leur truc dans leur coin, mais ça marcherait jamais vraiment, quoi, à une échelle industrielle. Et puis, finalement, on a pris conscience progressivement du danger qu'il y avait aux émissions carbone par rapport à la planète, du danger qu'il y avait avec les pesticides sur le fait voilà, d'en répandre partout sans vraiment de mesure, et puis les dangers que ça pouvait causer pour la santé et pour l'environnement plus globalement. Et le grand public, prenant conscience de ça, s'est mis à consommer des produits bio, à chercher à promouvoir les circuits courts, à faire à consommer des choses qui vont dégager moins de carbone. Et puis on est en train de rediscuter de peut-être étendre la taxe carbone de façon un peu plus musclée qu'aujourd'hui. Et peut-être qu'on verra dans les années qui viennent ou dans les décennies qui viennent la même idée que la production carbone est néfaste pour la planète, en fait l'accumulation de données personnelles est néfaste pour les libertés en général. Alors, j'anticipe peut-être sur la suite de la discussion que tu avais, mais sur les conséquences pour l'homme et pour son environnement de façon globale qu'il y a à fournir de plus en plus de données personnelles et à faire que les business models ce soit toujours aller un peu plus loin dans l'intimité des gens. Et quand on pense qu'Internet, ça a juste Internet grand public, on va dire que ça a 20 ans, c'est-à-dire que les gens ont commencé à avoir Internet chez eux à la maison à la fin des années 90, et que 20 ans plus tard, on en est à savoir énormément de choses sur les gens et à ce qu'une toute petite poignée d'entreprises connaissent, on pourra détailler hein, tout ce que connaît Google ou Facebook, mais surtout Google, c'est déjà inquiétant aujourd'hui, alors qu'on n'en est qu'à 20 ans de vie d'Internet. Alors, qu'est-ce qu'il en sera dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans? Et donc, je pense qu'il va y avoir un point de rupture, où un peu comme dans l'agriculture et dans l'industrie, on s'est dit on ne va pas pouvoir continuer à polluer de plus en plus, à mettre de plus en plus de pesticides, il faut développer des modèles alternatifs. Ben, les modèles alternatifs qui aujourd'hui paraissent pour un peu les hippies des années 80 dans l'agriculture bio, ben, ce sera en fait la norme et l'avenir dans quelques années.
Bah c'est en tout cas un mouvement qui est assez indéniable. Je pense que tous les auditeurs le sentent également. Cette préoccupation qui était diffuse et presque, comment dire, balayée d'un revers de la main, même, j'avoue, par des journalistes tech comme moi, aujourd'hui commence à venir sur le devant de la scène. Et je ne suis pas certain que ça soit, je ne suis pas certain de ce qu'amènera l'avenir, mais c'est sûr que les préoccupations sont en train d'émerger. Ceci dit, il y a une énorme partie de la population qui est quand même, qui veut utiliser ces autres services, en partie parce qu'ils rendent de grands services. Alors, ensuite, on revient à la question de est-ce que Quant peut être aussi efficace que Google? Il y a d'autres géants qui pourraient être préoccupants et dont on pourrait discuter. Et du coup, j'aimerais qu'on passe sur une autre partie de la discussion. L'une des choses que je voulais évoquer, c'est, ok, c'est très beau de parler de hippie, pourront se dire certains, de hippie des données privées, mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'utiliser Facebook, j'ai besoin d'utiliser YouTube, j'ai besoin d'utiliser tout ça. Comment est-ce que je peux faire pour utiliser tous ces outils en minimisant l'utilisation qu'ils vont faire de mes données privées? Et je crois que on va arriver ensuite à la configuration, si je ne veux pas du tout les utiliser, est-ce qu'on peut avoir des alternatives? Mais Dans un premier temps, imaginons que quelqu'un veut quand même utiliser tous ces outils. Quelques conseils qui viendront peut-être en parallèle d'un autre épisode qu'on a fait, l'épisode 162, avec Jérôme, alias Genma, qui était initiation à l'hygiène informatique. Donc la manière dont on pouvait justement sécuriser ces... pratique informatique. Alors, on parlait de sécurité contre le hacking, mais pas de sécurité pour les données privées. Là, si on évoque un petit peu plus... Oui, je rappelle, donc, c'est l'épisode 162. Si vous voulez aller l'écouter, il y a encore beaucoup de choses qui sont tout à fait intéressantes aujourd'hui. Mais on parlait de sécurité contre le hacking. Là, si on parle de données privées, ce que je dirais, moi, c'est qu'il y a des recoupements avec les questions de sécurité. Le fait d'utiliser des mots de passe complexes et d'utiliser des gestionnaires de mots de passe, comme je l'évoquais il y a quelques semaines dans l'émission, ça peut être utile parce que du coup, les données privées, au moins, ne vont être utilisées, entre guillemets, que par les services auxquels on les donne. Ça va être souvent... plus difficile, pas à 100%, mais plus difficile d'être hacké. Mais une question encore plus importante, ça va être de considérer que tout ce qu'on va donner comme contenu et comme information à ces services pourrait un jour se retrouver dans la nature. C'est-à-dire qu'il faut considérer que tout ce qu'on poste sur ces services est... pourrait être public. Donc, ne rien poster, ne rien, mais alors nulle part, ni en message privé, ni en quoi que ce soit, de photos que vous ne voudriez pas voir révélées au public à un moment. Et ça, c'est hyper important si vous voulez protéger. On parle peut-être encore un petit peu de hacking d'une certaine manière. Une autre chose à faire, à mon sens, c'est le fait de se limiter, évidemment, dans les informations qu'on va donner. Si on veut que les services en question n'aient pas trop d'informations, et ben il faut pas trop en donner. Moi, j'utilise Facebook, par exemple. Je l'utilise surtout pour lire les trucs parce que c'est un petit peu nécessaire, mais pas trop pour poster, en tout cas du côté privé. Mais ça, c'est une préférence personnelle. J'utilise beaucoup Twitter, qui est peut-être le même genre de, qui provoque le même genre de problème. Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser comme marque, est-ce qu'il vaut mieux utiliser Apple plutôt que Google, puisque Apple est fait sur son business model, fait son argent sur le matériel qu'ils vous vendent et pas sur la collecte et la revente de données privées qui vous appartiennent. Du coup, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un téléphone sous iOS qu'un téléphone sous Android, et de même, peut-être un ordinateur sous macOS, encore que Windows fait de l'argent de différentes manières, mais un petit peu moins avec la pub que Google. Mais du coup, là, je te pose la question, Guillaume, toi qui es un expert sur ces sujets, si je dois choisir un smartphone, oui, en moyenne, ils sont plus chers, c'est sûr, du côté d'Apple, mais est-ce que, mécaniquement, j'y gagne un petit peu en données privées ? Si j'utilise Apple et Quant comme moteur de recherche, bon, mettons Quant de côté pour le moment, si j'utilise un téléphone sous iOS, est-ce que mes données seront un petit peu plus privées que si j'utilise Android ?
Clairement, oui. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit très bien, hein, le modèle économique d'Apple, c'est avant tout de vendre du matériel et des services. Alors que le modèle économique de Google au jour d'aujourd'hui, c'est essentiellement de vendre de la publicité. Et vu qu'ils sont dans une logique où la publicité qui rapporte le plus est la publicité ciblée, et que pour pouvoir cibler les publicités, il leur faut les données personnelles, ben ils sont dans une logique où le téléphone mobile doit leur permettre de récupérer le maximum de données personnelles. Et donc, quand tu as un téléphone sous Android, la plupart du temps, il est configuré par défaut pour envoyer énormément de données. Et même, j'ai fait un test récemment sur Twitter où je demandais, parce qu'il y a une déclaration de, je crois que c'est le président de Google, qui disait « Non, mais les gens ont conscience des données qui sont envoyées quand ils utilisent un téléphone Android. » Et donc, je demande sur Twitter aux gens, est-ce que, on va vérifier, est-ce que vous savez, par exemple, si quand vous passez un coup de fil avec votre téléphone Android, est-ce que l'historique de vos coups de fil, et donc à qui vous avez passé un coup de fil, combien de temps ça a duré, etc., est-ce que c'est envoyé sur les serveurs de Google ou pas ? Est-ce que Google a connaissance du moment, de l'instant précis où vous lancez une application ou vous quittez une application, etc. Est-ce que il a accès à vos mails si vous lisez vos mails sur votre téléphone. Enfin, j'avais posé comme ça pas mal de questions, et en fait, ce qui était le plus intéressant, c'était pas forcément de regarder les bonnes réponses et les mauvaises réponses, mais simplement que personne n'avait les mêmes réponses. C'est-à-dire que personne, en fait, ne sait exactement ce qui est fait sur un téléphone Android, ce qui est récupéré comme données. Et le problème, c'est que bah, les gens achètent des téléphones Android parce que, comme tu l'as dit, c'est moins cher. Et quand tu prends un téléphone sous iOS, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de données qui sont transmises à Apple. Hein. Il y en a, et il y aurait plein de choses à dire sur Apple, mais au moins, ils sont dans une démarche qui est plus privacy by design, où ils vont essayer de faire que les données qu'ils reçoivent, elles soient anonymisées suffisamment pour qu'il n'y ait pas de recoupement entre les données, et pour ne pas que ça puisse être utilisé notamment pour de la publicité ciblée, ce genre de choses. Et donc la philosophie est complètement différente, mais moi en termes d'éthique, ça veut dire derrière que finalement la protection des données, la protection de sa vie privée, ça devient un luxe que seules les personnes qui peuvent s'offrir un iPhone bah, ont. Alors que les personnes qui ont des revenus moindres, qui juste ne veulent pas dépenser une fortune dans un téléphone, se retrouvent à avoir une vie privée qui est beaucoup moins bien protégée. Et ça, pour moi, c'est un problème.
Je pense que personne ne dira que c'est pas un problème. Mais ça m'amène quand même à te poser une question, et là je vais faire un petit peu de provoque. Enfin, un petit peu de provoque, même pas, il y a plein de gens qui pensent comme ça. Si certains viennent te voir et te disent « Écoute, t'es bien gentil avec tes histoires de données privées, mais moi, j'utilise un téléphone Android, il est moins cher effectivement, et je suis tout à fait conscient qu'il va utiliser mes données privées. » Peut-être que je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais ça ne me dérange pas plus que ça. J'échange mes données privées et mon ciblage pour la publicité, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas exactement précisé, mais tu disais tout à l'heure, ça n'affine pas énormément les réponses aux requêtes de recherche. Par contre, ça affine les publicités. Et je pense qu'on peut affirmer que la raison pour laquelle Google a besoin d'autant de données, au-delà de ce qu'ils font dans le domaine de la recherche, c'est aussi pour cibler les publicités. Mais donc, quand je disais tout à l'heure, j'échange mes données privées contre des prix moins élevés sur des appareils qui me sont importants. C'est une question, j'imagine, qu'on te pose tout le temps, et je suis sûr que tu as une réponse qui est déjà trouvée. Mais qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui n'ont pas de problème avec ce deal ?
Eh ben, en fait, c'est pas simple de leur répondre. Je crois que c'est compliqué de dire à quelqu'un qui n'a pas d'argent ou qui n'a pas beaucoup d'argent.
Excuse-moi, je t'interromps. Ne partons pas dans la question des gens qui sont vraiment dans le besoin, mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément, tu vois, qui pourraient se payer un iPhone 200 ou 300 euros de plus et qui vont dire, oh, c'est bon, je vais prendre un peu moins cher. Tu vois, évidemment, quand on n'a pas du tout d'argent, on n'a pas forcément le choix.
Mais en fait, bon, la réponse reste pas simple parce qu'il faut réussir à faire que la personne ait un niveau de conscience de ce qui peut être fait avec ses données personnelles. Et donc, c'est pas juste te permettre d'acheter un aspirateur moins cher parce qu'il va détecter que tu as besoin d'un aspirateur et qu'il va te trouver une promo, quoi. Si c'était que ça, à la limite, la collecte des données personnelles, ça irait. Là où ça devient problématique, c'est qu'est-ce qui peut être fait des données personnelles en termes de, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, en termes de manipulation. Et là, il y a une inquiétude à avoir, surtout avec le développement des assistants personnels, des interfaces vocales, tout ce genre de choses, qui vont te fournir une réponse ou une information qui va être personnalisée en fonction de ton profil socio-démographique, psychologique, ce genre de choses.
Excuse-moi, je précise là parce que tu dis qu'ils vont te fournir une réponse. Peut-être que les auditeurs n'ont pas bien saisi l'importance de ce détour de phrase. quand on est sur un moteur de recherche, on va avoir tout un tas de réponses, on va peut-être avoir des réponses de différents types. Mais quand on est sur un assistant personnel, bah, y a une réponse. On pose une question, on a une réponse et basta. Ah. Donc cette réponse a beaucoup plus d'importance. C'est ce que tu voulais dire, c'est ça ?
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas sur google.com ou bing.com ou quant.com, peu importe, avec une interface graphique, tu cherches quelle est la forme de la Terre. Si jamais il y a un de ces moteurs de recherche qui te dit en premier résultat que la Terre est plate, mais qu'en dessous tu vois qu'il y a 9 autres résultats qui te disent que la Terre est ronde, je caricature un peu, mais dans l'idée c'est ça. Bon, même si tu cliques sur le premier résultat qui te dit que la Terre est plate, t'as quand même vu que derrière, il y en avait plein qui te disent la Terre est ronde, tu vas peut-être aller regarder et comparer, quoi. Si par contre, tu demandes à une interface vocale quelle est la forme de la Terre et qu'elle t'affirme la Terre est plate, est-ce que tu vas douter de sa réponse ? Non. Et alors, je prends un exemple caricatural où évidemment on va douter de la réponse, mais quand tu lui demandes, je sais pas, quel est le taux de chômage aujourd'hui et qu'il te donne une réponse. Ça devient la réponse.
Ouais, c'est même pas que tu vas pas en douter, c'est que tu te dis t'as pas l'occasion de voir d'autres sons de cloche.
Exactement. Et donc c'est je veux acheter des chaussures, quel est le magasin de chaussures à proximité ? Il va te donner un magasin de chaussures et en fait tu ne sauras pas forcément qu'on t'a donné ce magasin de chaussures là parce que c'est celui qui a un accord avec le fournisseur de ton assistant personnel, qui a un accord commercial. Donc plus tu vas donner de données sur toi et plus tu vas utiliser ce genre d'outils, plus tu te rends susceptible d'être manipulé sans t'en rendre compte parce que on va... Alors, là, jusqu'à présent, on a pris surtout des exemples commerciaux, mais moi, ça m'inquiète plus, à la limite, au niveau politique. C'est où sur Facebook, par exemple, on va sur 100 posts potentiels qui ont été publiés par tes amis, en fait, Facebook va faire le tri, il va t'en montrer 5. Et il va te cacher par défaut les 95 autres parce qu'il va avoir retenu les 5 qui vont te faire avoir de l'engagement, qui vont te faire rester sur la plateforme, qui vont te faire repartager les posts, etc.
Ouais, c'est juste, je précise, c'est pas volontaire, mais c'est un petit peu orienté de dire c'est va te cacher les autres. C'est pas qu'ils vont te les cacher pour pas te les montrer parce qu'ils veulent pas que tu les vois, c'est juste que l'algorithme a déterminé que les plus intéressants, bah, c'était ceux-là. Et donc, les autres, bah, on les met de côté parce qu'ils n'ont pas généré autant d'engagement, etc. C'est les problèmes des algorithmes dont on parle depuis longtemps et qui sont incroyablement difficiles à résoudre, effectivement.
Ouais. Et alors là où tu es un peu généreux avec Facebook, c'est quand tu dis que ça va être les 5 les plus intéressants. En réalité,
oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est plus complexe que ça et c'est les 5, c'est pour ça que je parle d'engagement, qui vont te faire rester sur la plateforme, qui vont te faire interagir.
C'est les 5 qui font le plus de bruit, c'est les 5 sur lesquels on va avoir envie de cliquer, envie de liker, ou envie de répondre, de commenter. Et évidemment, c'est ceux qui sont peut-être... Bon, c'est tout le problème dont on débat depuis maintenant, je ne sais pas, 3-4 ans, depuis le Brexit, depuis machin, où on se rend compte que ces algorithmes orientent le débat public, quoi. Et ça... On peut débattre de est-ce que c'est bien ou mal, machin, mais le fait que ça oriente le débat public, je pense que la plupart des gens qui comprennent disent que c'est assez indéniable. Comment ça oriente, on ne sait pas, mais c'est indéniable.
Bah, et puis, alors, ce qui est surtout indéniable, c'est que ça t'enferme dans ce qu'on appelle une bulle de filtre. C'est-à-dire que quand tu... Là aussi, pour caricaturer, quand tu es de gauche, on va te montrer les posts des gens qui sont de gauche. Et puis qui vont te conforter dans tes idées de gauche, etc. Et quand tu es de droite, on va te montrer des posts des gens qui sont de droite, qui vont te conforter dans l'idée que la droite a les bonnes idées et que la gauche, c'est regardé comme c'est ridicule, etc. Moi, juste pour la petite histoire, c'est ça qui m'a fait quitter Facebook. Depuis un peu plus de 6 mois, je n'utilise plus du tout, j'utilisais déjà assez peu Facebook, mais je ne l'utilise plus du tout. Parce que contrairement à Twitter, où quand je poste un truc sur Twitter, alors, je suis un peu sadomaso, hein, j'aime bien le débat, moi. Ça me dérange pas du tout qu'on m'insulte sur Twitter, qu'on me dise que je pense des conneries, etc. Au contraire, j'aime ça, quoi. Je trouve que c'est dans le débat qu'on arrive à faire évoluer ses propres idées, à se remettre en question, à découvrir de nouveaux arguments, etc. Et donc, quand je poste un truc sur Twitter, pour peu que ce soit un tout petit peu provoque, tout de suite, je vais avoir des gens qui vont me répondre, on va être dans le débat. Par contre, surtout quand je faisais un peu la même chose sur Facebook, je me rendais compte que, en fait, j'avais tout le temps les mêmes gens dans les commentaires qui venaient me dire « Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est super. » Et en fait, il n'y avait plus aucune discussion parce que les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, juste ne voyaient pas ce que j'écrivais. Donc je pouvais essayer de convaincre les gens, mais à partir du moment où même ceux qui avaient fait l'effort, entre guillemets, de s'abonner ou de liker, je sais même plus comment ils appellent ça sur Facebook, mon compte ou ma page, bah, ils ne voyaient pas ce que j'écrivais. Donc j'avais l'impression de parler dans le vide ou de prêcher des convaincus. Et bah, ça, c'est vraiment dû aux bulles de filtre parce que Facebook a déterminé que les personnes qui pensaient comme moi allaient globalement aimer ce que j'écrivais. Et donc, on allait leur montrer ce que j'écrivais. Par contre, les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, statistiquement, peut-être ne lisaient moins ou ne partageaient moins, etc. Et donc, on ne leur montrait plus.
Mais du coup, enfin, vas-y, finis, et puis j'aurai quand même, moi, je vais faire un peu de provoque avec toi aussi, enfin, même pas vraiment, mais j'ai des questions.
Mais juste pour dire que ça, c'est un problème qu'on voit bien parce qu'il est très très visible sur Facebook. Enfin, de mon point de vue, il est très visible sur Facebook. Mais ce problème-là, on le retrouve aussi sur les moteurs de recherche qui vont personnaliser tes résultats et qui vont te faire remonter plutôt des résultats qui vont dans le sens de tes convictions, parce qu'il ne faut pas aller choquer le consommateur, il ne faut pas aller choquer l'utilisateur. Donc, si tu vas rechercher des informations sur un thème un peu sensible, on va plutôt te faire remonter les informations qui sont celles avec lesquelles, enfin, en tout cas, des points de vue qui sont ceux avec lesquels tu es en accord. Et pour revenir à la question des assistants
Mais
personnels,
tu penses vraiment que c'est le cas pour les moteurs de recherche aussi, qu'ils vont aller, ils vont te brosser dans le sens du poil? Enfin, à vrai dire, encore une fois, on met des termes qui sont un petit peu des jugements de valeur sur
En fait,
ces algorithmes. C'est
c'est pas
la
forcément
manière dont ils fonctionnent quand on
ça, c'est
prioritise
pas.
l'engagement, quoi.
C'est pas forcément volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ingénieur chez Google ou quelqu'un, même top management chez Google, qui dit on va montrer uniquement les résultats avec lesquels les gens sont d'accord pour les faire rester sur la plateforme. C'est pas ça. C'est par contre dans la façon dont on conçoit des algorithmes, c'est de dire on va faire remonter les résultats qui sont généralement consultés par les gens qui ont à peu près le même profil. Donc en fait,
C'est pour essayer d'être plus précis et d'être plus relevant, on dit en anglais, je sais pas comment ça se traduit en français, d'être plus à propos.
voilà.
Mais effectivement, de fait, c'est presque un effet pervers de cette quête de la justesse qui fait que on va te montrer que des trucs qui te font plaisir, quoi.
Voilà. Et surtout, il y a un effet cercle vicieux ou boule de neige où en fait, bah, plus tu vas aller cliquer sur des choses qui sont les choses sur lesquelles cliquent les gens qui sont proches de toi, plus on va te montrer des choses de ces gens-là et réciproquement. Et en fait, de plus en plus, on enferme des gens dans des petites boîtes où
Ouais.
on a plus du tout la même chose que les autres. Et
Mais
ça,
pour
je trouve, dans une
bien,
démocratie, c'est problématique.
effectivement, pour bien comprendre le fonctionnement du truc, c'est-à-dire que il affiche le résultat va afficher un certain nombre de résultats, va voir où quelqu'un va cliquer et donc dire, ah bah celui-là, il plaît plus à ce type de profil. Ce résultat plaît plus à ce type de profil.
Exactement.
Et quand il va avoir des profils plus ou moins similaires, même âge, même localisation, peut-être même, je vais dire même ethnie, mais on ne peut pas forcément déterminer l'ethnie directement, mais il y a plein de facteurs autres qui vont approximer l'ethnie. Donc, d'une certaine manière, ça peut y arriver aussi. Et donc, on va afficher ce même type de résultat en priorité pour une partie des résultats. Et donc, ça va effectivement être un petit peu préoccupant. Même si, en même temps, tu disais, ça ne représente qu'une faible partie des résultats qui sont affichés. Donc, c'est un petit peu mitigé quand même. Mais il y a d'autres lieux, entre guillemets, sur Internet, comme je pense à YouTube notamment, où ça va un petit peu plus jouer. Mais du coup, là, j'en viens à ma question que je labellise comme question provoque, mais c'est pas vraiment le cas. Il y a des gens qui vont te dire, écoute, Guillaume, t'es bien gentil, mais moi, j'ai envie de savoir ce que fait ma famille. Il y a des gens qui vivent loin de moi. Facebook est un outil formidable pour se tenir au courant. Idem avec Instagram ou d'autres. Qu'est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que la seule solution, c'est simplement d'arrêter d'utiliser Facebook? Est-ce qu'on jette pas un petit peu, je vais dire le bébé avec l'eau du bain, mais c'est peut-être l'eau du bain avec le bébé, parce que la vie privée pour certains est peut-être plus importante que les services que rend Facebook, mais il n'empêche que Facebook rend quand même des services à côté des problèmes qu'il peut poser.
Ouais, bah Est-ce que c'est la seule solution ? S'il ne rendait pas de service, il n'aurait pas 2 milliards ou 2 milliards 5 d'utilisateurs.
C'est ça, ouais.
C'est certain.
Les auditeurs là, qui disent « bah oui, mais moi, Facebook, ça me sert beaucoup », qu'est-ce que tu leur réponds ?
Eh ben, je suis désolé, hein, je fais une analogie avec la clope, avec la cigarette. C'est-à-dire que, la cigarette ne rend pas de service, mais on va dire ça donne plaisir.
C'est ça, exactement, oui.
Ça donne un certain plaisir à ceux qui fument. Moi, je suis non-fumeur, donc ça va être assez facile de dire ce que je vais dire, mais j'ai une bonne idée, a priori, de ce que ça peut être d'être addict à la cigarette et de ne pas réussir à arrêter la cigarette. Et d'aller chercher le plaisir dans le fait de fumer, tout en sachant qu'en fait, c'est néfaste pour toi. Et ben, pour moi, Facebook, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça rend un service, ça peut te rendre éventuellement heureux sur le moment, je sais même pas, de discuter avec un tel ou un tel. Et effectivement, pour.
Non, mais de voir des photos, si t'es un grand-parent, voilà, tu vois des photos de ton petit-fils que t'aurais pas vu autrement, ça te rend heureux, je pense.
Donc, le problème, c'est que Facebook est tellement populaire que si t'es pas sur Facebook, tu es exclu de la vie familiale, de la vie de tes amis, de la vie de tes collègues éventuellement si ça devient des amis. Donc c'est quasiment impossible ou très difficile de quitter Facebook comme c'est très difficile de quitter la clope. Et voire peut-être plus difficile parce qu'en fait tu te retrouves carrément exclu de la vie sociale et l'effet de réseau qu'on a sur Facebook est extrêmement puissant, donc c'est très difficile. Néanmoins, on sait que c'est très négatif, Facebook. Il y a des études maintenant qui le disent, qui le prouvent, c'est que ça te rend dépressif. Pour une raison assez simple, c'est que quand tu vas sur Facebook, tout à l'heure on parlait des messages qui sont choisis par Facebook, pas parce qu'ils sont statistiquement ceux qui vont te faire rester sur la plateforme. Mais les messages que tu vois, c'est par définition des messages de gens qui ont des choses à dire, des choses à montrer. Donc ça va être, j'ai été dans tel restaurant hier, j'ai mangé tel truc, c'était génial. J'ai été voir tel film, c'était génial. J'ai été à tel concert, c'était génial. C'est les photos de vacances. Et en fait, tu as beaucoup de gens qui voient ça, mais qui, eux, ont juste une vie normale où tu n'as pas tous les jours, ils vont pas au concert, tous les jours, ils vont pas au resto se faire un bon resto. Donc, ça te donne l'impression, consciemment ou inconsciemment, que tu as une vie de merde. Et donc, ça te rend dépressif. Et il y a des études qui le montrent aujourd'hui, ça. C'est-à-dire que j'avais fait cette analyse-là il y a longtemps en disant... parce que moi-même, je le ressentais quand j'allais sur Facebook. Hein, j'ai une vie complètement lambda. Je sais pas, en plus, j'habite à la campagne. Donc, tu vois, moi, aller dans les concerts, les machins, c'est pas mon truc. Malheureusement, hein, j'habiterais en ville, ce serait très, très différent, mais c'est pas le cas. Et donc, je voyais ça sur Facebook. Je voyais la vie de gens qui racontaient des trucs. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai une vie de merde. Et là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais non, c'est pas que j'ai une vie de merde, c'est que je ne vois la vie que des 2-3% de gens qui ont ces choses-là à raconter, et les 97-98% ils sont comme moi, c'est juste la majorité silencieuse.
Mmh. Oui, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a toujours 2-3% de gens qui ont des trucs à raconter et ça tourne ensuite, mais tu vois que ceux qui ont des trucs...
Voilà. Ouais. Le problème, c'est que Facebook est tellement populaire que si tu veux effectivement pouvoir partager des photos avec ta famille ou ce genre de choses, c'est sur Facebook que ça se fait. Et donc la seule possibilité de quitter Facebook, ce qu'il faudrait faire, pour son bien-être personnel, ce serait de migrer quelque part massivement ou par communauté sur une autre plateforme, donc que toute la famille se mette d'accord pour quitter Facebook et aller à un autre endroit, ou que tous les ton cercle d'amis proches, on communique plus via Facebook mais on communique par autre chose, mais c'est extrêmement
compliqué. Ouais.
J'ai pas de solution miracle.
C'est vrai que je pense qu'on a tendance à surestimer les bienfaits de Facebook. Ça peut faire sourire de dire Facebook est bien fait dans la même phrase, mais je pense qu'on a tendance à surestimer. Je pense aussi que il est possible, c'est-à-dire que sans Facebook, vous vivriez peut-être pas moins bien ou aussi mal que vous le pensez. Mais au-delà de ça. Je pense qu'il est possible.
Juste, si je peux t'interrompre là-dessus.
Oui, vas-y.
Pour parler de mon expérience personnelle, ce que je disais, j'ai arrêté Facebook il y a 6 mois. C'est vrai que j'allais déjà assez peu dessus, mais quand même. J'ai quand même remarqué un truc, c'est que dans un premier temps, tu as les amis qui racontent toute leur vie sur Facebook et qui s'attendent à voir la tienne sur Facebook, qui tu ne sais plus du tout du jour au lendemain ce qu'ils font et ils ne s'en renseignent pas sur toi.
Mmh.
Et donc ça dure un certain temps. Et puis en fait, au bout d'un moment, ils ont compris que tu n'étais plus sur Facebook et tu te remets à juste les avoir au téléphone ou à les voir dans la vie et en fait à ce qu'ils te racontent, ce qui leur arrive et à juste avoir une conversation normale, alors que avant, quand tu voyais ces amis-là, c'était
tu sais déjà tout parce quoi. Que ouais. En fait, donc t'as plus besoin de parler.
Et en fait, je trouve que ça. Et puis, je me suis mis peut-être à discuter davantage avec mes voisins, à nouer des liens plus forts avec les gens qui sont vraiment à proximité immédiate de moi, plutôt qu'avec des gens qui sont plus éloignés, etc. Et donc, le mal qu'on craint en quittant Facebook, en fait, n'est pas si négatif que ça, voire même peut être positif.
Mmh.
Voilà. Excuse-moi, j'ai fait cette parenthèse. Mais...
Non, mais bien sûr. Je pense qu'il y a des gens qui font. Il faut toujours garder à l'esprit que là, on parle le regard de personnes qui sont préoccupées par leurs données privées. Ce qu'on est en train de dire, c'est que tout le monde devrait être, dans une mesure plus ou moins grande, préoccupé par ça. Mais dans ce contexte, il est sûr que je pense que ta réaction n'est pas du tout unique. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vivent très bien sans Facebook. Je pense qu'il est possible de s'orienter sur d'autres types d'outils. Même pour la plupart des gens, c'est tout con, hein, mais SMS, envoyer des photos par SMS ou si vous êtes sur iPhone, iMessage, du coup, c'est un petit peu plus facile d'envoyer ce genre de données. À la limite, vous utilisez, je vais dire WhatsApp, mais c'est encore Facebook, mais vous pouvez utiliser Telegram ou Signal, qui sont deux apps de messagerie. Chacun recommande diverses, mais de messageries privées qui ne vont pas utiliser vos données en coordination avec un tas d'autres outils ou services. C'est possible d'envoyer les photos de cette manière. Oui, vous n'allez peut-être pas avoir les mises à jour constantes de vos 150 ou 350 amis sur Facebook. Mais c'est possible et c'est pas la fin du monde. Je pense qu'effectivement, c'est un aspect important de cette question. Il y a d'autres outils. Moi, je parle de ceux de ceux que je connais parce que je les utilise, mais des trucs comme YouTube, par exemple, j'imagine qu'on peut l'utiliser sans être logué. Est-ce qu'il y a des alternatives ? On peut utiliser YouTube sans être logué dans les services Google. Mais du coup, là, pour le coup, les recommandations sont peut-être un petit peu plus cohérentes sur YouTube parce que c'est un type de média différent. Est-ce que tu aurais une alternative à ce type d'outil-là ou est-ce que là, on est un petit peu coincé quand même ?
Alors sur YouTube, l'alternative en termes de contenu, malheureusement, elle est quasiment inexistante.
Ouais.
Dailymotion, on voit bien qu'ils ont beaucoup de mal parce que là aussi, il y a un effet de réseau qui est très fort. Les gens qui veulent faire des vidéos vont là où est l'audience, et l'audience étant sur YouTube, c'est sur YouTube qu'on poste des vidéos, et donc il y a là aussi un effet boule de neige. Et donc il n'y a pas vraiment d'alternative. À YouTube en termes de contenu. Après, ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que quand on va sur YouTube, ça analyse tout ce qu'on regarde et pour faire des recommandations, ce qui d'un certain point de vue est très pratique. Et puis parfois, c'est juste gonflant quand on va regarder le discours d'un homme politique quelconque sans forcément adhérer spécialement à ses idées, mais juste pour écouter ce qu'il a dit. Et que derrière, on a, ça y est, comme si on avait été identifié comme partisan de tel ou tel parti politique, on ne voit plus que ça, quoi.
Mmh.
Et donc là, pour éviter ça, reste utiliser la navigation privée. Donc quand on va aller regarder une vidéo sur YouTube, ça évite d'être connecté à son compte YouTube. Ça empêche pas totalement le tracking par Google, mais au moins ça évite que ça apparaisse dans l'historique YouTube. Alors sinon, si on n'a pas fait ça, on peut toujours se rendre dans son historique YouTube et aller effacer là où les vidéos qu'on a regardées. Et puis après, ouais. Ça peut être, pour parler en dehors de YouTube, c'est des extensions qu'on peut installer sur son navigateur qui vont bloquer les trackers. Donc, il y en a, si tu veux qu'on en liste certaines,
Oui, bien sûr. Il y a Privacy Badger notamment, ouais. Mais tu peux en donner d'autres. Privacy Badger qui est développé par l'IFF, l'Electronic Frontier Foundation. Je vais y arriver, qui est une association de défense des données privées sur Internet, notamment, et des droits sur Internet. Donc Privacy Badger, c'est le merde, Badger. Mais Badger, c'est un animal. Bref, peu importe.
Ah, tu savais même pas, tu vois.
C'est un jeu de mots entre l'animal et le... Ah, il y a des gens qui sont en train de hurler. Je vais y arriver dans leur téléphone, le blaireau. C'est un jeu de mots entre badger, qui veut dire blaireau, et badge, donc, qui va vous mettre un petit badge sur votre navigateur, qui est disponible sur à peu près tous les navigateurs, et qui va vous indiquer le nombre de trackers et pouvoir les bloquer. Je pense que si on veut parler du plus simple, je dirais c'est Privacy Badger qu'il faudrait installer. Peut-être que tu en as un autre à recommander, mais...
Ouais, alors Privacy Badger est très bien. Le seul truc, c'est qu'il bloque pas tout. Et notamment, il bloque pas Google Analytics, et donc ça veut dire que Google peut toujours récupérer tout l'historique de navigation, parce que Google Analytics étant installé sur, j'ai pas de chiffre en tête, mais enfin ça doit être, je pense, 95% des sites au moins les plus populaires ont Google Analytics, donc ça permet à Google de retracer ta navigation. Si tu veux vraiment bloquer plus, tu peux installer une extension comme uBlock Origin, qui lui, alors carrément, bloque tous les types de trackers possibles et imaginables.
Est-ce que ça bloque les pubs ou c'est autre chose ?
Alors, c'est là où je voulais en venir, c'est que ça bloque les pubs et j'ai toujours un problème éthique à conseiller un outil qui bloque les pubs et pas juste les trackers, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de sites qui ont besoin pour vivre d'avoir des pubs et je ne suis pas dans le discours où il faut bloquer les publicités. Je pense qu'il faut bloquer les publicités qui servent à collecter des données. Mais il ne faut pas diaboliser la publicité en elle-même. Mais pour ceux qui veulent vraiment tout bloquer, uBlock Origin, c'est super efficace. C'est plus efficace que AdBlock Plus, qui laisse passer ce qu'ils appellent les acceptable ads, les publicités acceptables. Et en fait, pour eux, les publicités est acceptable. Une publicité qui est discrète à l'écran, mais qui par contre va te pomper toutes les données possibles et imaginables. Donc moi, je suis pas trop dans ce trip-là. Alors par contre, uBlock Origin, lui, va tout bloquer.
Ouais, c'est uBlock, UBLOCK.
Voilà.
Et c'est uBlock. Est-ce que c'est différent uBlock et uBlock Origin? Parce que je trouve uBlock, mais pas uBlock Origin.
Alors, je crois qu'il y a le uBlock doit être un fork, ou uBlock Origin est un fork de uBlock, justement pour aller plus loin. Alors, je sais plus dans quel sens exactement ça a été fait, mais c'est les deux sont cousins, quoi.
D'accord, ok.
Après, il y a une extension qui bloque pas, mais qui est assez intéressante à installer, qui est KeyMeTrack. Mmh. Qui a été fait par les amis de Next Impact et qui est super intéressante. C'est quand tu vas sur un site internet avec KeyMeTrack installé sur ton navigateur, il va te dire le nombre d'appels à des serveurs externes. Et donc tu vas voir si tu vas sur le monde.fr ou le Figaro, peu importe, tu vas voir la centaine de sites avec lesquels tu communiques sans même le savoir. Pendant que tu es en train de lire un article, et en fait ça te montre l'étendue du nombre de trackers que tu as sur un site. Donc ça les bloque pas, mais en termes de pédagogie, je trouve ça assez assez intéressant comme extension.
Qui me traque ouais, j'arrive pas à la trouver.
KIMETRACK.
Ah d'accord. Qui me traque le petit. D'accord, ok. KIME, tu dis.
TRA. C'est K, si je ne me trompe pas.
Qui me traque, ok.
C'est TRAK, pardon.
Ah, TRAK, ok, c'est vraiment la version... ok, mais du coup, oui, on le sent bien, il y a quand même... Je pense que... C'est pas qu'on essaye de vendre du rêve, mais il y a une part de... Bah, on ne va pas avoir la même expérience si on essaye de protéger ses données privées. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas avoir, c'est sûr. Quel est ton avis sur les autres apps, peut-être, qui ne font pas partie de ces conglomérats ? Je pense à Snapchat ou TikTok, qui sont à la mode en ce moment. Quel est ton avis sur ces choses-là? Est-ce que à partir du moment où on est une société un petit peu indépendante, c'est un petit peu plus acceptable, ou est-ce qu'ils sont de toute façon, ils vont aller vendre les données aux mêmes personnes?
Le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'une société indépendante, quoi. C'est-à-dire que WhatsApp a commencé en étant complètement indépendant, avec un modèle qui
Oui, bien
était.
sûr. Mais c'est pour ça que je pense à, c'est pour ça que je pense à Snapchat ou ce genre de trucs qui sont, pour le coup, qui n'ont pas été encore rachetés par, par
Ouais,
Facebook.
tout est dans le pas encore, en fait. Mais bon, je saurais pas dire spécifiquement Snapchat, ce qu'ils prennent comme données personnelles.
Ouais, ça.
Je pense qu'il faut regarder un peu au cas par cas, mais globalement, malheureusement, hein, le modèle économique, surtout américain, aussi un peu asiatique, il est souvent dans le fait de collecter des données personnelles pour derrière aller faire de la publicité ciblée. C'est très rare les services qui sortent de ce modèle aujourd'hui.
C'est peut-être un bon marqueur, justement, quand c'est un service gratuit, et aujourd'hui, 99% des services sont gratuits, ça veut dire que vos données privées sont, quelque part, a priori, utilisées, quoi. J'y dis a priori, parce que Quant, c'est gratuit aussi, donc...
Voilà, et puis Wikipédia, c'est gratuit, ils le font pas non plus, et à l'inverse, tu as Netflix qui est payant, mais quand tu regardes les conditions, la privacy policy de Netflix, en fait, ils se permettent de faire à peu près ce qu'ils veulent avec tes données, y compris pour de la pub ciblée, etc. Donc moi, je fais pas forcément du gratuit payant un indice déterminant, quoi. Après, c'est sûr, c'est souvent... Souvent, c'est quand même ça, hein. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est vrai, en général. Mais il y a quand même des exceptions.
Et du coup, comment est-ce qu'est financé Quant ? J'ai même jamais pensé à me poser la question, mais...
Alors, nous, on a des publicités, mais qui ne sont pas ciblées sur l'utilisateur. C'est vraiment ta requête qui va déterminer quelle publicité est affichée. Donc c'est de la publicité contextuelle, mais c'est pas de la publicité ciblée. En tout cas, c'est pas de la publicité ciblée sur l'internaute. Et donc quand tu vas aller chercher le dernier modèle de téléphone et que tu tapes le nom, la marque du téléphone, on va trouver le marchand qui a une publicité pour ce téléphone-là. Si tu cliques dessus, on est payé. Donc c'est extrêmement efficace. Google a fait des milliards et des milliards avec ça. Il continue à faire des milliards et des milliards avec ça, parce que même la pub AdWords classique est assez peu personnalisé et ça fonctionne très très bien en termes de modèle économique.
Par contre, effectivement, encore une fois, pour que les gens comprennent la différence avec les autres types de services, si je cherche chaussures une fois, ça ne veut pas dire que Quant va se souvenir que j'ai cherché chaussures.
Ah oui, ouais, de l'instant où tu fais la recherche, on a déjà tout oublié.
Ouais.
Et on n'a pas transmis l'information aux annonceurs. Donc, c'est vraiment, si tu cliques sur une publicité, là, forcément, tu arrives sur le site de l'annonceur. Donc, lui, il peut prendre tes données et ça, on n'y peut rien. Mais à partir du moment où tu es sur Quant, que tu fais tes recherches, si tu fais 10 recherches d'affilée, pour nous, on n'a aucun moyen de reconstituer cet historique-là.
D'accord. Écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce débat. Je ne sais pas si les gens auront une idée plus claire, ou en tout cas une idée très claire de toutes ces questions. J'espère qu'elle sera... c'est ça. Je ne pense pas que les gens auront une idée très claire parce que c'est des questions très compliquées et auxquelles, je crois, il n'y a pas de réponse simple. Mais j'espère que les auditeurs auront une compréhension un petit peu plus grande de ces questions qu'on a évoquées. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire avant qu'on conclue l'épisode, qu'on a oublié ou auquel je n'ai pas pensé ?
Je pense, pour prolonger un peu là, ce qu'on vient de dire sur la gratuité des services, il faut peut-être dire aux gens qu'ils ont le choix, en fait, et qu'ils peuvent, pour quelques euros par mois, avoir leur vie privée qui est beaucoup mieux respectée qu'aujourd'hui. Et un truc tout bête à faire, c'est tu vois, aujourd'hui, massivement, les gens, quand ils veulent une adresse email, ils vont la créer sur Gmail ou Hotmail ou la poste.net.
Ah, c'est vrai, je voulais évoquer, oui, et j'y ai pas pensé. Ouais.
Et en fait, tu as aujourd'hui, alors, je sais pas, il suffit d'aller sur OVH, je sais jamais si c'est le .com ou .fr, tu vas sur le site d'OVH ou de Gandhi ou quoi, et tu crées ton propre domaine. Et moi, mon adresse mail, c'est une adresse @champeau.info parce que j'ai créé mon domaine champeau.info et donc j'héberge moi-même mes propres mails. Et en plus, j'ai de l'espace de stockage sur lequel j'ai installé une application qui s'appelle Ça va me revenir. Nextcloud, qui me permet d'héberger mes photos, d'avoir mon agenda, d'avoir mes contacts, etc. Et tout ça, c'est sur mon serveur que j'ai chez Gandhi. Ça me coûte 8 euros par mois. Mais au moins, j'ai personne d'autre que moi qui lit mes mails, j'ai personne d'autre que moi qui a mes contacts, j'ai personne d'autre que moi qui a mes photos. Je peux partager mes photos avec ma famille en leur créant un compte Nextcloud.
Et ça, ouais, mais il faut quand même un petit peu de connaissances techniques si on veut faire ça, non ? Un minimum, mais...
C'est pas très... Alors, pour ceux qui veulent vraiment le faire sur leur propre serveur et tout, j'ai fait un guide, moi. Si vous allez sur mon blog shampoo.info, vous le trouverez. Mais sinon, si vous allez tout simplement sur nextcloud.com, vous pouvez créer une instance. Vous payez, pareil, c'est quelques euros par an ou par mois. Et tout est configuré automatiquement. Alors, ce ne sera pas sur votre serveur à vous, pour le coup, mais au moins, il y a une politique de protection de la vie privée qui est très forte, où ils ne vont pas aller regarder les contenus que vous avez, quoi. Et ça, alors, je parle de Nextcloud, parce que c'est celui que j'utilise, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et donc, mettez un prix, quoi, sur qu'est-ce que c'est, combien ça vaut votre vie privée. Et si vous pouvez avoir des services équivalents où vous êtes sûr qu'il n'y a personne d'autre qui a accès à vos données. Et en plus, il y a un sentiment, je trouve, de fierté, quoi, quand on a ce genre de choses, où on se sent beaucoup plus libre quand on est vraiment maître soi-même de ces données. Il n'y a pas de fatalité à utiliser des services gratuits qui vont aller regarder tout ce qu'on fait pour pouvoir, derrière, aller vendre de la publicité quelques euros. Il y a des solutions alternatives qui existent et il faut aller les regarder.
Ouais. J'aurais envie de dire également, on pourrait évoquer, il y a des tas d'outils qu'on pourrait évoquer, et je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous diraient « Ah, mais vous n'avez pas pensé à tel ou tel outil ». Pour le mail, il y a Proton Mail qui a beaucoup de... qui est très populaire en ce moment, qui est un service qui respecte, tu peux me dire si je me trompe, mais a priori qui respecte vraiment la vie privée. Il y a des outils comme Framasoft si on veut utiliser des différents types d'outils de bureautique, par exemple. Enfin, il y a OpenOffice, il y en a plein qui sont des alternatives qui peuvent être gratuites aussi, de la même manière que Wikipédia qui fonctionne souvent par le volontariat et la culture open source. Donc, c'est possible. Je crois que les gens qui s'intéressent à ce genre de choses, enfin, je dirais, c'est presque une étape 2 dans cette démarche. La première étape est... Je pense que, mine de rien, c'est pas pour faire la pub de Quant, encore une fois, mais... La chose qui est centrale de tout ça, c'est le moteur de recherche. C'est comme ça qu'on trouve des choses sur Internet. Et j'imagine que c'est pour ça que c'est à ça que s'est attaqué Quant. Et donc, le conseil que je donnerais au-delà de OpenOffice, ProtonMail, les clouds privés, etc., c'est une première chose à faire. Si vous voulez repartir de cette émission avec juste une suggestion, une idée, c'est... Définissez Quant comme moteur de recherche par défaut de votre navigateur. Vous pouvez trouver comment le faire assez facilement. Et voyez ce que ça donne. Voyez si vous êtes... Oubliez Facebook, Twitter, tout ça. Oui, on pourra en discuter plus tard. Mais voyez déjà ce que ça donne avec 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois d'utilisation d'un moteur de recherche respectueux de votre vie privée et voyez si votre expérience est dégradée ou pas. Certains d'entre vous se diront peut-être oui, certains autres se diront non, mais ça vaut le coup d'essayer, je pense.
Eh ben écoute, je ne peux qu'aller dans ton sens. Je précise que l'émission n'est pas sponsorisée par Quant.
Alors, je parle de Quant, il y en a peut-être d'autres hein, auxquels je ne pense pas, mais c'est vrai que la plupart des... Tiens, je vais dire, pour être ouvert, on peut parler de DuckDuckGo aussi, qui est un moteur anglophone qui est un petit peu dans la même démarche. Vous pourriez essayer celui-là, mais on parle à des francophones. Autant utiliser un moteur français, tant qu'à faire, si vous voulez tester, non ?
Oui, et puis, je pensais pas qu'on allait parler de ce sujet-là, mais il y a quelque chose d'important avec Quant, c'est qu'on crée nous-mêmes notre propre moteur de recherche. Et ce qui veut dire qu'on est les premiers en Europe à être capable de dire ce qu'il y a sur le web et de trouver les contenus que nous, on juge intéressants. Alors que quand tu regardes les autres, et je ne vais pas citer les autres pour des raisons évidentes, mais ils utilisent exclusivement des API qui sont fournies par les 2-3 gros moteurs de recherche. Et donc, il n'y a pas du tout cette quête d'indépendance et de souveraineté européenne sur la technologie et notre connaissance du web, quoi. Donc, il n'y a pas que la question de la vie privée dans Quant, il y a aussi tout cet aspect-là qui est au moins aussi important.
Très bien. Je vais mettre du coup quelques liens ou quelques noms dans les notes de l'émission. Il va y avoir les noms des trackers, des bloqueurs dont on vous a parlé. Je vais mettre un lien vers ton article pour créer son cloud privé pour si certains veulent s'y intéresser. Je vais mettre le lien vers Quant également, qui encore une fois, c'est pas du tout. C'est le luxe que j'ai avec cette émission, c'est que j'ai pas du tout besoin de me reposer sur des contenus sponsorisés. Bon, Quant, j'imagine qu'il viendrait pas s'intéresser à moi, mais d'une manière générale. C'est grâce à l'argent que vous, les auditeurs, avez la gentillesse de payer pour soutenir l'émission que je peux faire mon métier en indépendance totale. Et donc, la raison pour laquelle je parle de tout ça et la raison pour laquelle j'appuie un petit peu sur Quant, c'est vraiment pour des questions de personnelles. C'est moi qui me dis, oui, ça peut être intéressant, voyez, essayez. Et pour les questions de... souveraineté européenne et française qui peuvent avoir aussi leur importance. Donc c'est vraiment moi qui vous en parle, et c'est pas parce que Guillaume est là, c'est pas... Je suis allé chercher Guillaume justement parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc voilà, si vous pensez si vous avez un doute sur les raisons pour lesquelles on vous parle de tout ça, j'espère l'avoir dissipé. Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein. Là, on est au bout. On a parlé de ton blog. Peut-être que tu peux nous donner ton compte Twitter si les auditeurs veulent aller chercher un petit peu plus ou te contacter.
Bien sûr. Alors, c'est Gchampeau, Gcham, comme Marie, Peau.
Très bien. Et donc, comme toujours, les liens seront dans les notes de l'émission, le lien vers le compte Twitter et les autres choses dont on a parlé. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et oui, j'utilise tous ces services plutôt de manière professionnelle. Donc, moi, en même temps, je suis vraiment dans une situation particulière, hein. Je suis quelqu'un de très public et c'est un choix que j'ai fait pour des raisons diverses. Mais je suis convaincu que malgré tout ça, je suis peut-être un petit peu plus soucieux de mes données privées que certains autres. C'est très sélectif, en fait. Mais bref, vous pouvez quand même me retrouver sur tous ces services si vous souhaitez les utiliser. Vous pouvez évidemment soutenir l'émission, comme j'en parlais financièrement, sur patreon.com/rdvtech et me permettre de rester indépendant et de vous parler de ceux dont je veux vous parler et pas forcément de ceux dont certains annonceurs veulent vous parler. C'est sur patreon.com/rdvtech, le lien est également dans les notes de l'émission. Et je vais conclure en vous souhaitant d'excellentes fêtes, encore une fois, une très très bonne année. Et puis on se retrouve très très vite pour un prochain épisode de l'émission où on reviendra sur l'actualité comme on le fait généralement. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao ciao.